C'était pas évident. Je vais appeler tout de suite à la table ronde, ça me permettra d'expliquer un peu comment ça va se dérouler. On disait tout à l'heure, la journée a été quand même extrêmement riche, fructueuse, donc il ne s'agit pas de s'endormir. Donc on va faire en sorte de mettre un maximum d'interactions. Vous pouvez poser vos questions à nos intervenants à tout moment. On vous passe le micro et on va essayer de mettre en place des questions-réponses et évidemment en lien avec les ateliers pour lever la frustration de l'impossibilité de réagir par rapport à toutes ces restitutions. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites. On va démarrer peut-être tout de suite avec M. Gonzalez. Depuis ce matin, M. Gonzalez, on entend évidemment beaucoup parler de transformation numérique, c'est le sujet de cette journée. Et on entend beaucoup parler aussi d'individuation des parcours et du lien d'individuation avec l'approche compétence, qui est une approche d'ailleurs qui ne va pas sans susciter un certain nombre de questions. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer pour mettre l'université de plein pied dans l'offre de formation tout au long de la vie?
Alors, moi, je suis président d'un réseau qui s'appelle Formation continue à l'université, donc je vais me situer par rapport à ça. Et comme j'ai une formation d'économiste, l'économiste se dit où il va. Et donc, où on va par rapport à l'objectif de la ministre, on ne sait plus si c'est 1 milliard ou 1,5 milliard, mais enfin, en tout cas, doubler l'activité par rapport à ce que, collectivement, on porte aujourd'hui. Et que ce soit au travers de la loi, que ce soit au travers du rapport Germinet et d'autres propos, on doit se situer demain sur un secteur d'activité qui n'est pas celui où on se trouve aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le numérique ne veut pas impacter les deux champs. Plutôt sur la réponse à apporter aux salariés, demandeurs d'emploi, dans une logique de montée en compétences ou de transition vers de nouveaux métiers. Et dans ce cadre-là, la réponse, elle passe forcément par le souci d'individualisation des parcours, notamment en prenant en compte l'ensemble des expériences et donc des compétences acquises par ces publics en emploi. On sait très bien que, alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, on passait en moyenne 17 ans dans la même entreprise, ça n'est plus du tout le cas. Et dans ces changements, qui peuvent être quelquefois des ruptures, il y a aussi des transitions. Et dans ces transitions, il s'agit d'évoluer sur des métiers qui sont en transformation, sur des métiers nouveaux. Et il faut que les universités prennent pleinement le rôle dans cette optique-là. Pour ça, ça signifie bien qu'il va falloir apporter des réponses aussi à des personnes en situation d'emploi dans une logique d'accompagnement en transition, et pas dans une logique de rupture. Et c'est vrai que c'est un champ nouveau parce que, on va dire, le décret 85 qui a organisé les services formation continue ne nous situait pas sur ce champ-là, mais plutôt sur l'ouverture d'université en reprise d'études à tous les publics. C'est comme ça qu'on a construit des services communs avec des caractéristiques qui leur sont un peu propres. Maintenant, ça doit devenir une ambition d'université. Ça veut dire, évidemment, prendre en compte les acquis des différentes expériences et des parcours des candidats et apporter une réponse, y compris en situation de travail, c'est-à-dire en s'appuyant sur ce qui est un droit opposable. Il ne faut pas en faire un objectif, mais quand même un moyen. Le hors temps de travail est un droit opposable. Donc il faut aussi réfléchir à la façon d'apporter des accompagnements à la montée en compétences sous des formes, je pense, hybrides, où le digital aura un rôle tout à fait essentiel à jouer. Il se trouve que, après je laisserai la parole aux autres, il se trouve que en rentrant par cette fenêtre-là, j'ai moi le sentiment qu'on transforme complètement l'institution universitaire dans sa façon de concevoir son offre de formation, de sa façon dont la rendre accessible. Donc c'est un élément d'innovation majeur dans la façon dont on va suivre les parcours, avec un espéranto qui nous rapproche des personnes en situation d'emploi, des organisations économiques, employeurs comme branche professionnelle, qui est évidemment l'approche compétence. Donc l'approche compétence est pour moi, effectivement, pour répondre à votre question, le point d'entrée qui va être l'élément de transformation de nos pratiques universitaires, des aspects pédagogiques en passant par le suivi des candidats, mais en passant par l'accueil, la communication, etc.
On va revenir plus en détail sur ces questions-là, mais une petite question tout de suite quand même. Quand on parle de transformation sur l'aspect numérique et transformation du paysage de la formation en général, on voit qu'on a une multiplicité d'acteurs qui est assez incroyable, hein, entre les entreprises, les pouvoirs publics, les différents acteurs de la formation, je pense aux branches, aux OPCA, etc. Est-ce que, par le biais de cette entrée compétence, ça vous permet de faciliter le dialogue avec ces acteurs-là, qui est quand même le point de levier aussi pour les universités, pour investir ce champ-là?
Bah, dans les contacts qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux, hein, pas simplement oui. les entreprises, mais aussi les représentants des entreprises, que ce soit le MEDEF ou CGE-PME, les OPACIF, incontestablement, encore une fois, l'espéranto, c'est-à-dire ce qui me permet, dans un premier temps, d'arriver à communiquer sur des programmes de formation et qui soit lisible par les deux partenaires, c'est effectivement la réflexion sur la compétence. Ce qui pose tout un tas de problèmes. Quand on parle de compétence, on parle de quoi ? Comment on la valide ? Les entreprises et les acteurs économiques nous demandent d'aller confirmer que la compétence est acquise, et ça, pas simplement d'attester qu'elle est acquise à la fin d'un parcours, ce qui va poser aussi peut-être des questions au travers de l'approche compétence, de la validation des compétences, de l'approche qualité, de l'engagement qualité des établissements. Mais c'est vraiment... moi, je suis dans le réseau depuis un certain moment. Le discours que je tiens ici, je le tiens auprès des partenaires sociaux, dans le cadre du COPANEF, dans le cadre des COPAREF, des CREFOP. C'est un point qui nous rapproche aujourd'hui.
D'accord. Ça
Après,
fait...
on a fait une petite partie du
ça
chemin.
Ça leur parle. Hein. Oui, j'imagine. OK. Jean-Marie Filhoc, par rapport à tout ça, quelle est la place, quel est le rôle des VP formation, finalement, par rapport à ces défis immenses et quel est quels sont les savoir-faire que l'université peut mettre en avant aussi dans une perspective de formation tout au long de la vie, pas seulement de formation continue.
Oui. Donc les VP, je trouve que je suis l'un des coordonnateurs du réseau des VP. Alors, VP formation, on ne sait pas trop comment les appeler. Alors, il se trouve que moi, j'ai demandé à mon président de me nommer VP formation tout au long de la vie, en charge de la commission formation et vie universitaire, hein, qui est le titre classique qu'ont mes collègues. Et je pense que le rôle des VP, c'est ce qu'on porte dans le réseau, c'est qu'on doit porter politiquement tous les aspects d'apprentissage par et via l'université. Donc ça, c'est une question, je pense, centrale, et pas seulement les questions de formation initiale ou les questions de vie universitaire ou de vie étudiante, mais une approche assez globale de la chose, et en particulier amener les équipes et amener les établissements à exprimer clairement une stratégie, une stratégie de formation, qui vise l'ensemble des usagers, la diversité des usagers, la diversité des... On va sortir du service public, puisqu'on nous y incite. La diversité de nos publics, en tout cas, elle est si importante que nos intervenants, enfin nos... J'ai une déformation, formation continue un petit peu quand même, hein, vous le remarquerez, oui. Que les enseignants de l'université, une telle diversité que les enseignants d'université ne la maîtrisent pas, ne la connaissent pas, et pour beaucoup, ne l'abordent par l'expérience, confrontés dans les amphis, confrontés qu'ils sont, ou dans les salles, à un public qui n'est pas le public qu'ils s'attendaient à avoir. Donc il y a une vraie question que je porte auprès de mes collègues, c'est comment inciter les équipes, lorsqu'on est dans des phases cruciales pour un établissement, que sont les contrats quinquennaux, et la construction de l'offre de formation, le cadrage, ça repose en particulier, sous le pilotage du président évidemment, sur les VP, et cadrer la construction de l'offre de formation, ça veut dire qu'on injecte dedans des éléments qui vont être des éléments qui vont permettre d'évaluer et de voir si notre université met en place la stratégie qu'elle a affichée. Cadrer cette offre, c'est un rôle des VP. Et je pense que là, ils ont un message très fort à faire passer. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre réseau-là. Je suis peut-être plus branché sur ces questions-là que les autres, mais en même temps, systématiquement... Et tout ce qu'on diffuse au réseau, c'est la formation tout au long de la vie, c'est la formation de tous les publics qu'on reçoit. Donc construisons et affirmons le fait que notre université, elle est capable de répondre. Mmh. Avec tous les outils dont a parlé mon voisin, dont on parlera ensuite, l'intégration de plein d'outils, que ce soit du numérique, que ce soit individualisation, que ce soit la VAE, il faut que ça soit pensé dans le cadrage initial, il faut que ce soit dans la stratégie de l'établissement. Si ça y est pas... Eh bien, ça continuera à l'être comme ça l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est très sensible à ça et qui va le faire, et puis les autres, ils s'en foutent. Et donc, on a cette, je pense en tout cas, c'est de cette responsabilité que je me sens investi en tant que vice-président de cette université, puis que j'essaye de faire passer dans le réseau. La dimension qu'on nous renvoie souvent, c'est qu'en fait, ils ne savent pas faire, nos collègues. La formation à l'utilisation d'autres méthodes, ou d'autres méthodes que celles qu'eux-mêmes ont... ont eu quand ils étaient étudiants, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mettre en œuvre les outils, mettre en œuvre l'individualisation, mettre en œuvre la validation des acquis, mettre en œuvre le numérique, utiliser des outils divers et variés. Pour certains, ça coule de source, mais pour la grande majorité, ça l'est pas. Et donc, on résoudra une toute petite partie de l'équation le jour où on aura une véritable formation à ces dimensions-là, des enseignants et des enseignants-chercheurs qui œuvrent dans nos établissements.
D'accord, merci. Pour mettre en place cette stratégie dont vous parlez, ce cadrage, cette construction de l'offre formation, il faut que les établissements s'organisent. Gilles Roussel, est-ce qu'il y a un moyen de le faire, un moyen, on va dire, privilégié pour mettre en place cette organisation, une voie royale ou...
On s'appuie sur un bon VP.
Voilà.
Là, il y en a un à ma gauche qui a pris une partie des choses que j'avais à dire, bien sûr. Donc oui, effectivement, je voulais reprendre un petit peu ce qu'a dit Jean-Marie. C'est vrai que, effectivement, le travail le plus important à faire, c'est autour de l'offre de formation. C'est à ce moment-là que tout se décide, qu'il faut bien intégrer toutes les dimensions, et notamment la question de la formation de la vie et du numérique, et que ces deux choses-là doivent se croiser. Je pense que c'est au moment de ce travail-là que tout se joue. Donc il faut, de mon point de vue, et ça a été dit, c'est la question de l'individualisation des parcours, c'est de dire chaque individu a son propre parcours, et il ne faut pas différencier la formation continue, la formation initiale, la VAE, le qualifiant, le diplômant. Il faut avoir une approche plus globale, il me semble, et après voir comment ça se décline dans l'offre de formation. Ça nécessite de bien concevoir l'offre de formation comme un continuum, la formation initiale en étant un bout, peut-être la VAE en étant l'autre bout, et puis qu'entre les deux, il faut trouver des modalités pédagogiques pour arriver à atteindre tout ça.
Alors justement, est-ce que le numérique est un levier par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment un levier ?
Le numérique, sous sa forme de capacité d'apprentissage, est effectivement un levier pour ça, il me semble, parce qu'il permet d'avoir des nouveaux modes d'interaction, d'apprendre depuis chez soi, de toucher des salariés, des types de différents publics. Mais il faut aussi penser à la partie back-office, sur la partie
gestionnaire,
système d'information, ouais. Sur la partie suivi des personnes. On voit bien qu'aujourd'hui, les universités ne sont pas forcément... j'entendais tout à l'heure l'évocation du fait que pour valider un module, pour se souvenir dans 10 ans que la personne a validé un module et puis le transférer dans le cadre d'une validation partielle des acquis, ouais, ou des choses comme ça, aujourd'hui, je pense pas que je sois la seule université dans laquelle on peut dire qu'on sait pas faire, quoi. Même déjà inscrire l'étudiant dans un module tout court, c'est très compliqué quand on n'a pas un DU. Ouais. Les systèmes d'information sont pas adaptés à la formation continue. Je pense que c'est quelque chose qui est important sur lequel il faut travailler, où le numérique peut apporter des choses, si tant est qu'on ait bien pris dans la conception des systèmes d'information cette dimension-là en compte. Et puis l'autre point que je voulais évoquer aussi sur le travail du numérique, c'est vrai que ça peut apporter quelque chose, et là moi je salue cette initiative d'avoir mis autour de la table tous ces réseaux ensemble, c'est que ce qui, à mon avis, est le gros enjeu pour l'université pour que tout ça réussisse, c'est qu'on arrive à mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs qui sont là. Et ça, c'est pas gagné, parce que l'habitude, même dans nos universités, c'est que chacun travaille en silo. Alors que les problématiques, de mon point de vue, sont les mêmes. La problématique du numérique, c'est une problématique de transformation, vous l'avez dit, sur l'évaluation, sur les modes de formation, sur l'approche compétence, et ainsi de suite. Et la formation continue, c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes difficultés qu'on a. Donc aujourd'hui, on a souvent des services qui travaillent, et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas les mêmes publics, ils s'attaquent pas aux mêmes difficultés, donc ils ont tendance à travailler chacun dans leur coin. Et toute ce que doit arriver à faire un président d'université, un vice-président, ou plusieurs vice-présidents, c'est arriver à faire travailler tout le monde en cohérence par rapport à une stratégie commune et arriver à profiter de l'apport croisé de ces différentes visions.
D'accord. Merci. Antoine Rosy, je pense que ça va vous faire écho, ce constat de fonctionnement en silo. Comment vous percevez la manière dont les choses se déroulent sur le terrain ? Est-ce qu'il y a véritablement ces problématiques de silo ? Il doit y avoir une remise en cause de l'organisation ?
Oui, il y a le fait de parler de formation tout au long de la vie, c'est immédiatement... ce qui est intéressant, c'est que c'est la... c'est la conjonction ou c'est la rencontre, pour moi, du tableau de service de la formation classique et puis du business plan de la formation continue. Et là, ça, c'est un aspect qui est fondamental aujourd'hui dans l'enseignement à distance et dans la production de ressources numériques. Parce que, traditionnellement, un directeur de formation à distance, c'était quelqu'un qui inscrivait des étudiants, répartissait des étudiants, des professeurs dans les tableaux de service et avait une activité qu'on connaît, qui était la même depuis pas mal d'années, avec une distribution qui, a évolué. Et aujourd'hui, on est sur beaucoup plus la production de ressources. Et la production de ressources, ça demande de penser, d'arriver à avoir la production avant le cours. Et donc, d'avoir les financements. Et si on veut des financements aujourd'hui, il faut qu'on ait une espèce d'idée de rentabilité, ou tout au moins de budget prévisionnel. Et ça, c'est vraiment un point que la formation continue connaît très bien. D'un autre côté, nous apportons un nouveau public, parce qu'on n'est plus dans le public des professionnels, on est dans un public qui est beaucoup plus varié que la distance connaît depuis longtemps. Donc ça, c'était, pour moi, c'est la relation est logique entre de parler de formation tout au long de la vie, et il y a une relation logique entre la formation continue et la formation initiale, et en particulier la formation à distance. Et on peut apporter beaucoup là-dessus.
Donc, a priori, les investissements qui peuvent être débloqués pour la formation continue, pour répondre à des besoins identifiés, vont bénéficier à la formation initiale, dans la stratégie d'innovation pédagogique, notamment.
Ça, c'est quelque chose que l'on a absolument...
C'est totalement intégré.
J'ai l'exemple dans mon université, puisque Alain Gonzalez et moi, nous sommes dans la même université, et il est bien clair que, autant que je suis prêt à profiter de tous les crédits qu'il est prêt à me donner, et de la même façon que je lui passerai les ressources immédiatement. Ça... En étant un petit peu plus... Voilà. En étant un petit peu... mais c'est dit sur le ton de la plaisanterie, mais c'est véritablement important. C'est-à-dire qu'au moment où on va penser la production des ressources, on va pouvoir les penser pour toute la gamme des étudiants. C'est ça qui est important. Alors là-dessus, essayer d'insister sur le fait qu'on apporte aussi, dans la formation initiale, les notions de qualité, les notions de normes et standards, que la distance, c'est aujourd'hui véritablement une compétence. Une compétence qui a beaucoup évolué, parce que entre le papier-crayon, le Minitel, et puis aujourd'hui l'encadrement numérique, ça a complètement, complètement changé.
D'accord.
Voilà. Le dernier petit point,
oui, allez-y.
C'était un aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'idée que on a besoin, pour ramener ces financements aujourd'hui, et là, le numérique consomme du financement, c'est ça ce que je veux dire. Oui. On a besoin de rentrer dans les projets européens. Et rentrer dans les projets européens pour les formations, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Alors, ça se fait, bien entendu. Déborah nous en a donné un exemple clair ce matin, et ô combien éloquent. Iden est important pour ça. Mais on n'est pas habitué à cela, et j'espère, il faut arriver à avoir dans les formations le même raisonnement que dans la recherche. La recherche va chercher, sur des appels à projets, va chercher les financements. On doit pouvoir arriver à avoir ça dans les formations. Ça demande de modifier certainement un petit peu les structures.
Oui, on va revenir sur cet aspect, parce que je crois qu'il est vraiment, vraiment particulièrement important. Je vais passer la parole à Eric Castex pour qu'on ait un point de vue un peu de ce qui se passe concrètement sur le terrain, au niveau de l'accompagnement, des services d'accompagnement auprès des personnels. En attendant, vous allez pouvoir prendre la parole tout de suite, hein, donc affûtez vos questions et manifestez-vous et on vous passe le micro. Eric Castex, comment ça se passe du côté de chez Ancia? Quels sont concrètement les services que vous mettez en place? À partir de là, quels sont les besoins que vous identifiez auprès des différents personnels des établissements?
Alors effectivement, nous représentons en fait l'ensemble des personnels qui travaillent dans les métiers de TIS audiovisuels. Par exemple, ils sont en train de nous filmer, de nous diffuser en direct sur Internet, dans cette salle, tout simplement, il faut les remercier. Donc c'est ces personnels... back-office, qu'on ne voit pas, mais qui sont présents sur tout l'univers de la mise en œuvre du numérique au quotidien. Au sein des établissements, donc, leur rôle est très divers. On l'a illustré tout à l'heure par la diversité, la compréhension des libellés de leur métier en particulier, parce qu'ils interviennent de manière omnisciente. à l'accompagnement, à la transformation numérique pour la mise en place de ces nouvelles pratiques de formation. Donc, il mène à la fois des actions de sensibilisation, d'éclairage, de présentation d'instruments numériques, de formation à ces instruments. Ils interviennent régulièrement donc, auprès des enseignants. On l'a vu dans l'illustration du petit jeu de rôle. C'est eux qui accueillent la demande, qui exposent en fait les solutions et qui la mettent en œuvre. Pour résumer en partie, au niveau de l'association nationale, on s'efforce en fait d'accompagner ces collègues en les formant, en leur proposant un catalogue de formation continue pointu, donc spécifique, adapté à l'adaptation d'un métier numérique très mouvant, pour justement consolider leur savoir et leur savoir-faire. C'est aussi l'occasion aussi de croiser des pratiques. Donc on met en œuvre en particulier des journées thématiques sur les différents domaines de métiers, ingénierie pédagogique, réalisation audiovisuelle, production. Ces journées sont l'occasion en fait que l'ensemble des membres de cette communauté croisent des organisations de travail, des cahiers des charges, des processus, des matériels à mettre en œuvre. C'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels. Donc on s'efforce de faciliter ces rencontres pour maîtriser en fait la connaissance des instruments numériques. Par exemple, ceux qui permettent de diffuser aujourd'hui en direct cette captation qui en même temps est enregistrée et donc on retrouvera en podcast dès ce soir sur Canal U. Ben pour faire ça, il y a toute une instrumentation assez complexe, donc c'est très intéressant de comparer en fait la mise en œuvre. Voilà. Donc Astia est un facilitateur pour cela.
D'accord. Autant de compétences finalement qui sont devenues évidentes au sein de la communauté universitaire, mais qui ne le sont pas forcément quand on regarde de l'extérieur.
Non, parce que ces métiers en fait, ils sont très nouveaux. Ils sont nés donc en 2008, donc oui. C'est quand même très jeune par rapport à notre vieille histoire de la formation tout le long de la vie dont on vient de parler longuement. De l'université, ils sont très nouveaux, ils sont mouvants, c'est des métiers donc, dont le libellé donc, change. On a créé le métier d'ingénieur en technologie de la formation. Mmh. Là, depuis ce matin, on parle d'ingénieur pédagogique. On a entendu le mot de conseiller pédagogique. Voyez, donc c'est des choses qui s'adaptent, qui sont très en ligne en fait, avec la numérisation de la société, tout simplement. Voilà. Et donc ces métiers se construisent. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, dans cette famille, on peut considérer que le ministère joue le jeu en fait de, je veux dire, accompagner l'évolution des choses, donc en essayant d'adapter au fur et à mesure de l'évolution les métiers et les emplois. Mmh. Donc, il me semble donc qu'effectivement, ça s'ajuste chaque année lors de l'entretien individuel qui sont conduits pour chacun de ces agents sur l'adaptation de la fiche emploi, tout simplement. Donc, qui oriente progressivement leur métier. Aujourd'hui, qu'on appelle plus accompagner l'usage du numérique. Donc, d'accord. Hier, c'était les TIS, aujourd'hui, c'est plutôt l'accompagnement de l'usage du numérique.
Ok, voilà. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un veut poser une question dans la salle ? Je regarde. Non, pour l'instant, pas. Non, d'accord. Moi, j'ai envie de vous poser comme une question. On a parlé des problématiques organisationnelles au niveau institutionnel, au niveau national, au niveau des personnels. Au niveau des étudiants, qu'en est-il ? Quels sont les besoins qui sont exprimés et comment traiter les demandes ? Tout à l'heure, dans la restitution de l'atelier 3, Patricia Gounon nous a fait part d'une interrogation sur le rapport formation initiale, formation continue, du point de vue de l'étudiant, qui interroge finalement aussi le statut de l'étudiant. Est-il en formation initiale ? Va-t-il être en formation continue ? Quand il est salarié, à quel moment on le place dans... Comment positionner le curseur et quelles sont les réponses possibles des universités par rapport à cette problématique ? Qui veut réagir ? Allez, Gilles Roussel.
Oui, je ne sais pas trop répondre, donc je vais... c'est pas simple, d'autant plus qu'il y a
une question n'est pas tranchée.
Il y a une circulaire de la DGESIP sur la question des étudiants en reprise d'études qui nous pose beaucoup de questions dans les services de formation continue, de savoir où est-ce qu'on doit inscrire les étudiants. Le parti pris que j'ai eu à l'université de Marne-la-Vallée, c'est de dire eh bien, allons jusqu'au bout de la démarche, inscrivons-les tous en reprise d'études. C'est-à-dire de dire, a priori, la problématique, c'est de dire, en gros, ils sont tous en formation initiale. Et en fait, on les ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de les accompagner pour trouver des financements. S'ils sont, il est possible de trouver des financements pour soit payer la formation, soit, soit l'accompagner, les accompagner d'un point de vue voilà, logement, déplacement, et plutôt que d'être dans une démarche où, par défaut, on essaie de faire payer des tarifs individuels plus bas, et voilà, où souvent voilà, ça générait des problèmes derrière. Donc, moi, mon point de vue, c'est a priori un étudiant qui arrive, il est en formation initiale ou reprise d'études et donc dans un statut normal, de mon point de vue. Alors après, ça dépend des politiques des établissements. Pour pouvoir se concentrer, je vais revenir à ce que je voulais dire, oui. Qui n'était pas votre question.
C'est fait pour.
qu'il est important aussi, dans les établissements, de bien définir la politique de ce sur quoi on veut se concentrer. Ça a un lien avec ce qui vient d'être dit. C'est l'idée chez nous a été de dire, ben, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on dépense de l'énergie et des moyens pour essayer de faire en sorte que des individuels payent un tarif qui, de toute façon, ne couvre pas les coûts? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à mettre nos forces, nos moyens sur aller vers des nouveaux publics, essayer de capter une demande qui correspond aux spécificités de notre établissement et de mieux définir notre offre de formation continue dans une démarche plutôt proactive pour aller chercher des nouveaux publics plutôt que de compter, en fait, gagner un petit peu d'argent sur ce qu'on sait faire déjà et qui, globalement, relève de la formation initiale. Parce que c'est souvent dans le cas, en fait, pourquoi l'étudiant se pose la question, c'est parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Hein, c'est ça ce que ça veut dire.
Oui. Hein.
Voilà, donc comment on arrive à faire cette différence et comment on est différenciant pour essayer de capter de nouveaux publics?
J'ai entendu, je ne suis pas d'accord. C'était une boutade?
Non, je pense que c'est la stratégie qu'on a mis en place dans notre établissement et pas celle-là.
Ouais.
Elle est même complètement orthogonale. Je dirais, c'est qu'on a... ça part de plusieurs points de vue. C'est parti d'un constat, c'est que les personnes qui reviennent à l'université, souvent, rentrent par différents endroits. Ils vont dans les scolarités d'une UFR, ils s'inscrivent, on ne sait pas trop. Puis, à un moment donné, ils ont besoin d'une feuille de présence parce qu'ils sont morts d'emploi et puis que, finalement, ils sont dans une phase de reprise d'études financée, leurs indemnités les financent, eux, ne financent pas la formation. Ou que l'employeur demande est-ce qu'ils sont vraiment présents, hein, le fonds GESIF, par exemple, tout ça, et que ça retombe sur qui? Sur le service de formation continue, qui voit apparaître des gens qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pour mettre fin à tout ce bazar, on va dire, le choix qu'on a fait dans notre université, celle de Brest, c'est de dire tout adulte qui veut reprendre des études à l'université, eh bien, il a un bureau spécialisé d'accueil. Et quel que soit l'endroit où il arrive à l'université, il est renvoyé vers ce bureau. Mais c'est la seule fois où il est renvoyé quelque part. Tout va se traiter à cet endroit-là. Tout va se traiter à cet endroit-là, c'est-à-dire l'accueil, l'information, l'orientation, la prise en compte d'éventuels besoins d'acquis d'expérience, parce que parfois ils ne savent même pas que ça existe. Et que c'est la première information qu'ils vont avoir autour de ça. Et on va être en capacité de leur proposer une construction de parcours, et même de les inscrire, puisqu'on on a installé dans ce
donc ça,
ce
c'est, bureau principe, c'est un guichet unique.
C'est un guichet unique avec scolarité, tout ce qui est là, en lien avec les composantes, d'accord. En accord avec les composantes. D'accord. Et ça nous permet de... tu dis, pour le financement, à partir du moment où le ministère aussi se considère comme un opérateur de la formation tout au long de la vie et de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire c'est écrit dans le jaune budgétaire, que l'État participe à travers les reprises d'études, donc ça c'est vrai, mais que par ailleurs il y a 9 milliards ou 13 milliards, dit-on maintenant, pour la formation professionnelle des Français. Il n'y a pas de raison qu'une partie du financement de l'université ne vienne pas par là. Et puis finalement, les sommes récupérées avec un effort moyen, je dirais, et pas autant aussi considérable qu'on le dit, quand on professionnalise l'équipe qui fait ça, permet largement de financer le système et surtout d'offrir aux individus un service complètement intégré sans qu'on fasse payer les individus. Alors, évidemment, la peur, dès qu'on dit formation continue, guichet unique, on va nous demander un chèque. Et c'est pas du tout cela. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. C'est pas du tout cela. C'est qu'on va aller chercher les financements, les aider à aller chercher, parce que le financement, c'est pas nous qui l'avons, c'est eux, disons. Et évidemment, plein de structures préfèrent et disent aux adultes, surtout n'allez pas au service de formation continue, parce que ça va finalement non pas coûter à l'individu, mais ça va coûter à la structure, et elle prendra en charge éventuellement le salaire, elle prendra en charge les allocations, Oui. Mais elle ne veut pas payer les coûts pédagogiques alors qu'elle les paiera sans difficulté pour une autre organisation, un autre organisme de formation. Nous, on s'est mis en position d'être dans ce positionnement-là. Il n'y a pas de raison, puisqu'on est sur ce marché-là et que la loi de 71 l'a mis sur le marché, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cette part de marché.
Ouais. D'accord. Qui veut réagir ? Attention, le temps passe très vite. Alain González, allez-y. Vous avez d'autant plus une question.
Oui, parce qu'en fait, là, c'est pas les extrêmes. Enfin, c'est pas tout à fait. Vous n'avez pas tout à fait une vision partagée. Moi, je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser maintenant, parce que la remarque de Jean-Marie fait référence. Enfin, c'est le décret 85. Hein,
d'accord.
Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que 30 ans après, on peut se poser la question de la meilleure organisation. Si on parle de FTLV. C'est-à-dire permettre l'ouverture de toutes nos certifications dans une logique d'individualisation de parcours à tous les publics, quel que soit leur âge. La question de où on les accueille, où on les informe, où on les oriente, peut se poser différemment. Je n'ai pas la réponse, mais je dis en tout cas, on peut poser la question. Ça veut dire néanmoins que c'est des publics qui auront besoin probablement d'un accompagnement spécifique. Et là, il appartiendra à l'université de les traiter de façon particulière. Mais je crois qu'il faut peut-être, j'allais dire, ouvrons les chakras comme le fait le rapport Germinet. Posons-nous les questions en 2016 sur une offre de formation continue qui devient une offre de formation tout au long de la vie, avec l'idée de permettre l'entrée de façon séquencée, hein, c'est bien ça l'objectif, à tous les publics. Et auquel cas, l'endroit où on les accueille, où on les accompagne, où on les traite d'une manière générale, est-ce que ce sont les mêmes lieux que les étudiants classiques ? Est-ce que ce sont des lieux distincts ? Je pense que c'est fonction du service qu'on leur apporte plus que de fonction du statut.
Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ta synthèse, parce qu'en fait, on fait exactement la même chose que ce qui se passe à Brest, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que de mon point de vue, c'est que pour l'étudiant, ce soit transparent qu'il soit en formation initiale ou en formation continue. C'est-à-dire qu'il ait le même cheminement et que ce soit ensuite l'université et son service unique qui se chargent de lui offrir les services qui vont bien, s'il est en formation initiale, qui vont être des services particuliers, ou s'il relève a priori de la formation continue, de la reprise d'études, pour l'accompagner au mieux pour que sa formation se passe dans les... Mais ça ne doit pas être à lui de se poser la question. Oui. C'est ça ce que je voulais dire, il ne faut pas faire de différence.
Antoine Rosy, micro.
Je voudrais changer un tout petit peu la perspective et parler de services à l'étudiant. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la multimodalité. C'est d'arriver à de la souplesse du point de vue de l'étudiant, là, carrément, pas du point de vue de l'institution. Multimodalité, souplesse, et que le cours qui est délivré soit à distance, que dans le programme, on ait une partie à distance, une partie en présence, une partie hybride, etc. Et que de toute façon, le cours qui est délivré ou le certificat que l'on obtient ait la même valeur parce qu'il est fait, parce que la qualité est assurée. Voilà, c'est l'aspect interne, en quelque sorte.
Alors là, il y a eu quand même des évolutions légales qui permettent d'avoir une meilleure reconnaissance de la formation à distance. Je pense au décret d'août 2014, qui fait suite à la loi du 5 mars. Est-ce que tout ça, bon, au-delà de l'aspect purement réglementaire, il y a aussi une évolution des mentalités, des esprits, pour mieux intégrer de manière plus naturelle, finalement, le numérique dans les formations, oui, de manière multimodale, comme vous l'avez dit.
Oui, je pense, paradoxalement, pour moi, ce qui a fait le plus pour intégrer les formations numériques, ce sont les MOOC. Les MOOC ont cassé le questionnement sur le numérique. À un moment, d'accord. Je ne dis pas que ce soit une grande méthode pour enseigner, mais ça a été une grande. Ça a permis d'acculturer la communauté de l'enseignement supérieur, y compris dans les hautes couches, je dirais, du point de vue scientifique, se sont habitués à cette méthode et ne la mettent plus en question. Et ça, c'est un acquis fantastique. Maintenant, les décrets de 2014 ont beaucoup servi aussi. Mais ce qui est véritablement important, c'est d'assurer que les équipes, la reconnaissance des différentes équipes pédagogiques qui permettent de reconnaître les différentes modalités d'obtention du diplôme.
D'accord. Alain González, oui, peut-être.
Juste une précision, c'est pas tant le décret sur l'enseignement à distance, parce qu'il y avait une circulaire de 2011 hein, qui disait pratiquement la même chose.
Oui.
Ça n'était qu'une circulaire. Par contre, le décret, on va dire enseignement à distance, au regard du décret qualité, pose une vraie question de fond. C'est-à-dire que déjà, le décret qualité questionne, mais confronté à l'enseignement à distance, une forme hybride ou pas, ça questionne encore plus. Et là-dessus, on a un vrai travail de fond à faire.
Et concrètement, et derrière ça, est-ce que la réforme avec la loi du 5 mars ouvre des possibilités pour les universités ? Puisqu'on est sur des, avec le CPF notamment, on a mis en avant, on met en avant les formations diplômantes, les formations certifiantes, donc la possibilité peut-être d'adresser un public salarié qui n'était pas forcément toujours adressé par les universités. Tout à l'heure, Gilles Roussel parlait de démarches proactives, je crois, pour trouver de nouveaux publics. Est-ce que ce n'est pas finalement le bon moment aujourd'hui de s'inscrire dans cette démarche-là?
Alors, quelqu'un a dit ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus, c'est une liberté individuelle encadrée.
Oui, c'est vrai. Mais le DIF l'était aussi.
Oui, le DIF l'était, mais vous ne suivez pas tout au long de votre vie. Le
c'est
DIF,
vrai.
Celui-là, normalement, c'est comme si vous aviez un compte en banque et on vous expliquait que vous ne pouvez pas acheter d'iPad, mais uniquement, je ne sais pas, des Microsoft, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout acheter. Alors, il y a d'ailleurs une annonce de la CGT il y a quelques jours à l'Université d'hiver de Biarritz, l'Université de la formation professionnelle, qui dit, bon, en fait, le mieux, c'est de mettre tout ce qui est ORNCP sur les listes, et c'est l'abondement qui sera fonction, je dirais, du projet de l'individu. Je trouvais finalement que ce n'était pas forcément une mauvaise idée, ça évitait toutes les discussions là, et les bagarres qu'on a autour des listes. Alors c'est sûr que c'est une ouverture, à condition qu'on soit capable d'individualiser les parcours, puisque de toute façon, on sera au maximum à 150 heures. Donc 150 heures sur, pour que ce droit individuel s'exerce dans le cadre d'une certification, parce que je rappelle, le CPF, c'est dans le cadre d'une certification.
Oui.
Il faudra bien qu'on trouve des modalités nouvelles d'accès à cette formation et à ces parcours. Et je pense que dans ce cadre-là, et on revient sur la discussion de ce matin, systématiser la VAE, prendre en compte les compétences déjà acquises, être capable de valider, y compris des parcours de formation classique qui auraient été réalisés par d'autres que par le certificateur, sont quand même des souplesses qu'il va falloir introduire si on veut bénéficier du CPF. On peut se battre, hein, on a quand même pas des milliers de DIF. Donc on peut se battre sur les listes, mais est-ce qu'on est prêt à entendre qu'il faut qu'on ajuste notre façon de positionner les personnes, leur apporter des parcours plus individualisés, prendre en compte de façon fluide l'ensemble des éléments des parcours antérieurs? Ça, c'est quand même des révolutions importantes pour les universités.
Jean-Marie
rappelons oui. juste qu'un étudiant qui travaille chez McDo produit du CPF. Donc
oui.
change de statut sans changer forcément de certification.
Oui. Jean-Marie Filoc, peut-être, est-ce que aujourd'hui les universités, avec le numérique, est-ce que le numérique peut être une bonne opportunité pour se saisir justement de cette question du CPF, notamment, pas seulement.
Le numérique, je ne sais pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on est avec le CPF peut-être dans un changement de mentalité dans la société et qu'on disait aller chercher des nouveaux publics. Je disais à Gilles, là, finalement, un nouveau public, moi, j'en ai pas besoin. On en a trop d'étudiants, quelque part. Je grossis le trait, mais des étudiants dans les universités en France aujourd'hui, dans certaines filières, il y en a beaucoup, pour pas dire trop. Ce qui serait intéressant, c'est que le CPF et la traduction du CPF, une autre manière de le dire, c'est quelque chose, un droit différé. C'est que quelque part, nos jeunes, là, qui ont peut-être pour certains la capacité à trouver un emploi plus tôt, soient assurés de pouvoir reprendre des études à l'université. Ça, c'est pas gagné. Aujourd'hui, on a l'impression, dans la tête de beaucoup de gens, que reprendre des études à l'université, on a de la chance si on a réussi à le faire. Mais c'est pas le CPF, ça introduit une logique inverse. C'est que c'est un droit de reprendre des études. Des études conduisant à des diplômes mobilisants. Et donc là, je pense qu'on a... si on communiquait dans ce sens-là, je pense que ça pourrait peut-être avoir un impact sur, justement, nos publics qui changeraient, du coup. Et qui deviendraient peut-être plus nombreux en reprise d'études, comme dans certains pays européens, on est à 40-50% de gens en reprise d'études dans les universités. En Finlande, pays qu'on cite souvent, c'est le cas, et c'est entre autres parce que la reprise d'études, jusqu'à une époque récente, parce qu'évidemment les gouvernements changeant, les politiques peuvent éventuellement changer, jusqu'à une époque récente, c'était un droit de reprendre des études. Et si c'est un droit, c'est un droit de les arrêter un moment et de les reprendre quand on en a besoin ou envie. Est-ce que le numérique favorise cela? Je ne sais pas.
Dans l'absolu, oui. Éric Castex, peut-être?
Oui, en deux mots, oui, quand même, parce que le numérique, aujourd'hui, c'est proposer des modalités de suivre une formation d'une manière indifférenciée, en tout lieu, en tout temps. Donc on propose, on a quand même numérisé beaucoup d'enseignements. Au départ, c'était fait dans le cadre d'une formation bien, bien décrite. Aujourd'hui, cette formation, on la recompose à travers des parcours, à travers des parcours offerts à des individus qui rentrent dans cette formation par divers canaux. Donc, ils peuvent rentrer au sein de l'établissement à travers la plateforme, ils peuvent rentrer dans cette formation à travers des réseaux sociaux, par exemple. On peut réunir, en fait, des individus qui sont a priori en FC, en FI, à travers une communauté d'apprentissage, où ils vont se rencontrer. C'est aussi l'occasion que des salariés rencontrent des étudiants, de manière virtuelle, de manière réelle, mais en tout cas virtuelle, à travers des classes virtuelles, des classes, des webconférences. Tout ça, ça a été démultiplié et facilité aujourd'hui par l'accessibilité numérique. Donc, oui, le numérique, quand même, c'est, il me semble, quelque chose qui, aujourd'hui, se transforme. On le voit bien, en particulier pour tous les enseignants qui ont eu l'expérience de réaliser, par exemple, des MOOC. J'imagine qu'aujourd'hui, ils ne pensent pas à la conception de leur formation de la même manière. Donc, ça va quand même aussi bousculer la façon dont ils vont poser le schéma de construction de leur objet formation, par exemple. Voilà.
Gilles Roussel, n'hésitez pas à vous manifester. Hein, le temps passe, il reste 10 minutes. Gilles Roussel, allez-y.
Oui, donc je voulais juste revenir effectivement sur effectivement le numérique peut aider, notamment sur les questions de CPF, parce que c'est vrai que dans la logique du numérique, il y a cette notion de scénarisation, ça a été évoqué, découpage en modules, voilà, et toute cette dimension-là qu'on devrait faire quand on fait du cours en présentiel, mais qu'on a pas forcément l'obligation de faire, et donc dans le numérique, on est obligé de le faire. Donc voilà, je pense que c'est une aide, les gens qui sont passés par les questions de scénarisation, de découpage de leur formation en modules, en petites parties qui peuvent être suivies en vidéo, voilà, toute cette dimension-là facilite le passage vers des modules plus courts, et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une aide. Je pense aussi que, et là c'est la question de... on est en général, et tu disais, t'as pas voulu le dire parce qu'on était filmé, qu'il y avait trop d'étudiants à l'université, mais moi je te reprendrai pas, mais mais c'est vrai que dans la formation initiale, on est plutôt dans une logique d'offre. Hein, quand on passe sur le numérique, on veut faire, on est sur une logique de réponse à une demande, et dans le numérique comme dans la formation continue, on est justement dans cette logique-là. Donc là, les deux sont bien complémentaires. Voilà, on est comment on répond mieux. On a des publics qu'on peut toucher, qu'on pouvait pas toucher. Donc on est plutôt dans une logique de j'offre un service différent à des personnes différentes. Et donc de ce point de vue-là, il me semble que le numérique et la formation continue ont beaucoup de choses à voir ensemble.
Et finalement, quitte à poser une question complètement stupide, mais ça appelle des réponses intelligentes, est-ce qu'il y a la possibilité pour les universités aujourd'hui d'adresser toute cette hétérogénéité de public ? Ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir le choix de se dire on va nous organiser de telle manière à ce que politiquement on soit structuré pour répondre à tel et tel public, mais pas forcément à d'autres ? Un peu comme on a des universités de sciences, on aurait des universités publiques adultes.
Il y a le CNAM ?
Oui, il y a le CNAM, mais... Certes.
Moi, je veux dire,
c'est complètement stupide ou
non
c'est...
Non, parce qu'on est confronté à un ou plusieurs choix. Je vais prendre l'université, je connais un peu, qui est l'UPMC. Moi, 50% de mon financement formation continue, c'est les entreprises.
Ouais.
Alors, je veux dire, le CPF en tant que président du réseau m'intéresse et j'essaie de faire en sorte qu'on y soit. Mais clairement, la stratégie de développement, elle n'est pas là-dessus. Elle est vraiment sur ce qui n'apparaît pas. C'est-à-dire sur le plan de formation entreprise, qui n'apparaît pas dans les comptes. Parce que le CPF, c'est 20% des fonds actuels. Mais le plan de formation entreprise, aujourd'hui, c'est un investissement, et c'est plus, j'allais dire, un impôt, un passage obligé. Mais donc c'est ça qui m'intéresse. Je pense que dans d'autres lieux, si j'étais dans une université à la périphérie de Paris, j'ai un territoire, j'ai un public, et la question de mon offre pour ce territoire-là, qui peut être nécessairement une reprise d'études, personnes qui ont arrêté leurs études plus tôt, va m'amener à avoir une stratégie différente, évidemment. Donc je pense qu'on a des choix à faire. Le fait de passer d'une logique de l'offre, disait Gilles, à une logique de la demande, c'est-à-dire d'être proactif, nous oblige à choisir nos cibles. Parce que si on ne choisit pas nos cibles, on sera dans l'incapacité, sauf à recruter de façon... pléthorique des enseignants, des administratifs, des ingénieurs, on sera dans l'incapacité de porter nos actions avec le minimum qualitatif recherché par le décret. Donc je pense que vous avez raison. On peut toujours se dire on va répondre à tous les publics. Concrètement, la structure, la sociologie des publics dans les services formation continue, aujourd'hui, ça dépend des universités et de leur positionnement sur leur territoire. L'UPMC, le territoire, c'est pas l'Île-de-France. Donc on va pas se construire pour recevoir que des demandeurs d'emploi ou des comptes personnels formation. Vous voyez donc voilà.
Tout à l'heure, sous forme de boutade, j'ai dit que le CNAM était spécialisé. C'est vrai qu'ils sont spécialisés quand même dans ce domaine-là. Mais quand même, la mission des universités est quand même de répondre à une diversité publique. Hein, c'est dans les missions de l'université. Donc on a du mal à imaginer qu'une université, du jour au lendemain, se dise « je ne fais pas de formation continue » ou « je ne fais pas de VAE ». Voilà. Donc on a quand même une mission de répondre à l'ensemble de ces publics-là. Et donc il y a quand même une volonté dans toutes les universités, même si, comme le dit Jean-Marie, il y a trop d'études. étudiants.
Je n'ai pas regardé Twitter, mais il doit y avoir des trucs en 146.
C'est notre mission, et donc on essaye d'y répondre. Après, je rejoins Alain sur le fait que, effectivement, il faut savoir se spécialiser et arriver à cibler les publics. Je disais, quand on avait discuté un petit peu ensemble, oui. Il ne faut pas courir
plusieurs lièvres à la fois.
Voilà, il faut savoir d'avoir une stratégie, notamment sur la formation continue, parce que là, on a des choix à opérer dans nos établissements.
D'accord. Des questions ? Ah, très bien.
Clairement leur positionnement et leur choix de réponse. C'est-à-dire aussi qu'il faut que les individus y sachent que s'ils ont envie de faire une reprise d'études non financée par leur entreprise, par exemple, s'ils sont demandeurs d'emploi, ils s'adresseront à telle université plutôt qu'à telle autre. Ben si, parce que ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'universités qui accueilleront les personnes en reprise d'études, mais qui ne seront pas forcément accompagnées avec tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour les facteurs de réussite.
Évidemment que non, et mon propos n'est pas celui-là, que les universités continuent à accueillir tous les publics. C'est clair, la stratégie, la réponse à la demande sociale, à la demande économique, elle ne pourra pas se porter sur tous les publics. Elle se portera sur les publics qui majoritairement s'adressent aux universités pour des questions de reconnaissance, pour des questions d'offres de formation. Donc c'est vrai de tous les établissements, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas des demandeurs d'emploi. Mais puisqu'on est de la même université, on a à peu près 250 reprises d'études dans les diplômes nationaux sur 10 000 inscrits. Voilà. Est-ce que je passe de 250 à 275 ou je m'intéresse là où est mon champ d'activité aujourd'hui et la reconnaissance des acteurs économiques, des individus, des salariés ?
Vous ne garderez pas en tête ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes bien au deuxième degré.
Je suis en train de voir de neutralité totale. Donc.
Ce que je disais en aparté, à Brest, ils ont trop d'étudiants et à l'UPMC, ils ne reçoivent pas les chômeurs. Donc.
Antoine Rosy, allez-y.
Alors, je voulais dire une chose, c'est qu'en plus, il faut compter avec la concurrence du privé. Parce que ceux qui ont le choix de leur parler, public, fondamentalement, c'est le privé, au départ. Donc, c'est un élément qu'on doit prendre en compte. Quant à savoir, l'aspect trop d'étudiants peut être aussi, surtout dans ces modes de formation multimodaux, le fait qu'on risque d'assécher aussi les autres universités, si on est une université qui a du succès. Ça, c'est quelque chose que l'on a connu. Sans avoir trop d'étudiants, on peut être amené à pratiquer un certain malthusianisme parce qu'il est ridicule de concentrer plus de 40% d'une promotion d'un type de disciplinaire à l'intérieur d'une université. C'est malsain plutôt que ridicule.
D'accord. Je vous laisse la parole, je voulais vous poser une question qui n'est pas complètement en lien avec ce qui vient d'être dit là, mais que vous avez abordé au début, c'est sur l'absence finalement de la présence française au niveau des appels d'offres et appels à propositions européens sur la formation tout au long de la vie. Est-ce que ce n'est pas là une opportunité, encore on boucle une fois encore avec l'aspect numérique, est-ce que ce n'est pas là une opportunité de défricher de nouveaux champs, d'avoir des échanges d'expertise, à la fois avec des collègues à l'international, mais aussi, comme vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, d'échanger des expertises avec les VP Recherche, peut-être, sur la structuration d'équipes dédiées à la réponse à ces appels-là ?
Moi, je crois que la variété des réponses internationales et le fait que la FTLV est un concept que l'on trouve quand même à nos portes de façon déjà bien connue et amène nous pousse beaucoup à aller questionner nos voisins ou de temps en temps traverser l'Atlantique pour aller jusqu'au Canada par exemple, mais Finlande, Royaume-Uni, etc. Ça a du sens. Et d'autant plus qu'il y a un point important. Je pense que nous nous adressons traditionnellement à la DG éducation dans cette discipline où l'on est. Par exemple, à la LERU, on pourra peut-être avoir tendance sur les mêmes sujets à s'adresser à la DG recherche, parce qu'il y a un moment où pour les universités qui ont beaucoup... Donc un groupe d'universités internationales qui a envie d'avoir une forte participation à la recherche, la formation va être beaucoup plus orientée vers la recherche et va être assumée comme telle et peut-être pourra être prise en compte par la DG Recherche au niveau européen. Et il y a un dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on assiste aujourd'hui au niveau international à une fabrication des normes et standards par, en Europe, on va dire, le néerlando-britannique. En étant brutal et certainement caricatural. Et ça, c'est un réel problème. J'étais récemment dans une réunion où on parlait de qualité. Les Anglais ont créé le crédit UK. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus le crédit européen, on utilise dans les qualités standards le crédit britannique. Il n'y a aucune raison pour que la République française repasse ou passe aux unités impériales. Je veux dire, c'est pas concevable.
Ok, bah écoutez, il est 16h30. Sauf si quelqu'un a vraiment quelque chose d'extrêmement important à dire, on va clore cette table ronde.